Vous êtes bien sur l'émission Ça part de là où je reçois Ben Nevers lors de l'événement Frams à Avignon pour revenir sur son parcours. Découvrons alors comment le jeune vlogueur est aujourd'hui connu pour sa libéralisation de la parole. Au revoir les tabous et bienvenue les discussions entre potes. Vous pouvez découvrir son travail sur sa chaîne YouTube, sur celle de France TV Slash, mais également dans son nouveau livre Je ne suis pas viril. Je vous recommande tout son beau travail, mais pour le moment, je vous laisse écouter notre échange. Eh bien bonjour Ben.
Salut.
Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ça part de là, où on revient sur le début de carrière pour voir comment vous avez trouvé la motive pour commencer. Du coup, toi tu tiens quand même beaucoup d'émissions maintenant. C'est vrai que moi je t'ai connue quand tu commençais avec Entre Mecs, et maintenant t'es quand même sur France TV, t'as développé plein de formats différents. Et au final, t'as pas du tout fait des études d'audiovisuel de base, tu faisais pas de la communication?
Alors, pas du tout d'audiovisuel,
ouais.
Mais ouais, j'ai fait un... Dans le détail, j'ai fait un BTS com, après j'ai fait une licence relations presse, relations publiques, et après j'ai fait un master 1, master 2, communication marketing.
Okay.
Donc je suis un pur produit de la communication.
Il y a quand même du journalisme un peu dedans, quoi.
Il y a un peu, alors, mais même pas réellement en fait, parce que en vrai tout est un peu lié, mais c'est vrai que les études de journalisme c'est encore autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été éduqué à faire vraiment des articles, tu sais, à faire des choses comme ça. C'est vraiment de la stratégie de communication. Mmh. Donc c'était plus pour faire de la stratégie de marque, en fait. Mais après, voilà, sur de la relation presse, je travaillais avec des journalistes. Donc tu vois, tout est quand même un petit peu lié.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer au début? Parce que t'avais déjà un métier, j'imagine, fixe de base, quoi.
Ouais, bah, je bossais en agence social media. J'étais ce qu'on appelle content manager. On aime bien les titres un petit peu anglophones et en plus très pompeux dans la com. Mais en gros, c'était un espèce de manager de contenu. Donc au départ, moi, on m'avait embauché parce que depuis le lycée, je faisais de la photographie et je m'étais professionnalisé là-dedans. Donc j'étais attiré par l'image déjà de base et vraiment d'un point de vue aussi technique, créatif, mais surtout technique. Et c'était l'époque où en fait, on commençait à s'intéresser sur les réseaux sociaux au contenu, notamment images. Et c'était le début de la vidéo. C'était vraiment l'époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, mais c'était l'époque où on disait, ouais, la vidéo, ça va être l'avenir, bientôt, on consommera plus que ça sur les réseaux, quoi. Mm. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et du coup, il y a un moment où, en fait, je me retrouvais un peu moins dans mon taf, où, en fait, bah, tout ce que je savais faire, je m'étais dit, OK, j'ai un savoir-faire, mais je ne le mets pas au service de projets qui m'intéressent 100%. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, à côté de mon taf, vu que j'ai les compétences, je vais faire ce que j'ai envie de voir déjà sur YouTube, parce que je suis un gros consommateur de YouTube. J'ai vécu l'arrivée de YouTube en France. Donc vraiment, c'était vraiment toute mon enfance, adolescence, etc. Et je me suis dit, bah voilà, il me manque le format que j'ai commencé à faire moi, tu vois.
C'est un format qui te manquait dans le sens où t'aurais aimé le voir sur d'autres chaînes?
Ouais, complètement. Ouais. Ah ouais, complètement. Je me disais, mais encore quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à faire ce que je faisais, au tout départ, j'avais pas de moyens. Donc c'était du vlog, où en fait je me rendais compte que c'était la grosse mode du vlog. Et je me disais, ouais, je viens de regarder vraiment 30 minutes de vlog, et en fait j'ai rien retenu, il s'est rien passé. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai kiffé?
C'est un bon moment.
C'est hypnotisant et tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bien. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop bien de faire ça. Mais où à la fin de la vidéo, tu te dis, ah, j'ai quand même retenu des choses et j'en ai tiré des leçons personnelles, ou peut-être que ça m'a fait des déclics, etc. Donc je me suis dit, bah, ok, je vais faire du vlog, je vais prendre la contrainte de ne pas avoir de moyens en opportunité d'en faire une ligne éditoriale, tu vois.
Et du coup, tu filmais avec quoi à l'époque?
J'ai eu plein de trucs. Au tout départ, j'avais emprunté à un pote un Osmo, qui est une caméra stabilisée, mais qui n'est pas faite pour ça du tout. C'est un enfer. Donc, je gérais de la technique, tous les aspects techniques, avec un matos qui n'était pas du tout fait pour. Et en même temps, je devais marcher.
Ouais.
Et en même temps, gérer l'interview,
tu
vois.
Tout seul.
Ouais, je faisais tout seul. Donc, en vrai, c'était une galère. Et puis, en plus, comme on me voyait à l'image, il fallait que je paraisse tout le temps hyper intéressé, que je m'occupe pas du tout de la technique. Donc, si tu regardes mes premiers vlogs, il y a vraiment toutes les 20 secondes un petit regard caméra, tu sais, en mode ok, c'est bon, c'est encore dans le plan, etc. Et après j'ai changé et j'ai eu comment ça s'appelait, j'ai eu un G7X, je crois, une autre petite caméra, et puis voilà. Puis après j'ai évolué comme ça, et jusqu'au moment où après je me suis dit, je vais commencer à faire des tables rondes, des discussions, et qui était un truc qui me manquait de fou sur YouTube. À ce moment là on m'a dit, mais c'est trop bizarre de faire ça, les gens ils vont jamais regarder.
Pas trop au début, ouais.
Non, bah en vrai les gens, bon, j'ai jamais eu des gens qui m'ont dit le fais pas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui me disaient, mais Genre, il y a des gens qui vont regarder des vidéos de d'autres personnes assises sur une table qui vont discuter, tu vois, à aucun
c'est
moment.
C'est bien ce qu'on regardait à la télé, finalement, en plus.
Ouais, oui, c'est vrai que tu vois, des vivants dimanche, des choses comme ça. Mais il y avait plus de moyens, etc. Et puis surtout, il y avait quand même en tête que ça allait pas intéresser les jeunes. Que les jeunes, ça allait être des vidéos de 3 minutes, que ça allait être des sketchs, qu'il fallait que ce soit du stand-up. Avec,
Mais il y avait beaucoup d'humour aussi à l'époque.
Ouais, complètement. Complètement. Et moi, j'arrivais un peu en ovni, en mode, mais moi, j'ai trop envie de voir ça, donc je vois personne le faire, donc je vais le faire. Et voilà, et puis après ça a donné la suite, donc avec Entre Mecs, et puis derrière, en effet, ouais, comme tu le dis, j'ai presque un peu trop de format même, donc là j'ai baissé un petit peu parce que, mais en fait j'ai envie de tellement de tout tester, que j'ai testé plein de choses, et maintenant j'arrive à recentrer un petit peu pour en avoir un petit peu moins, même dans la tête des gens, pour que ce soit un peu plus, un peu moins complexe, tu vois. Mais maintenant on va dire que ouais, mon émission Entre Mecs qui continue, j'ai Tartine de Vie, qui était la version évoluée, où à un moment je me suis dit, j'ai trop de contraintes dans Entre Mecs, je veux tout éclater et faire genre plus un truc radio, tu vois.
Okay.
De me dire, maintenant je peux accueillir des gens pendant une heure, deux heures, je m'en fous, et avec les invités que je veux, et on parle de ce qu'on veut. Et après j'ai Insomnie, ouais, sur France Télévisions, qui continue là.
Et du coup, comment les gens, comment tu t'essayais de faire en sorte que les gens avaient confiance en toi dès le début? Parce que finalement, les invités sont arrivés très vite, et ce n'était pas des invités de petite taille, quoi. La vidéo qui t'a fait un peu cartonner, j'ai l'impression que c'est celle avec Kemar. Et c'est quand même fort de, dès le début, arriver à avoir de gros invités comme ça.
Bah ouais, en fait, l'histoire, elle commence même avant ça. C'est qu'au départ, donc moi, je ne suis pas du tout d'un milieu dans la vidéo, dans les médias, quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai même dans mon cercle d'amis et tout, tu vois, je suis un campagnard. Hein, donc, vraiment, nous, on regardait YouTube de loin, mais à aucun moment, on se disait, c'est un vrai métier, tu vois. Bien sûr. Et du coup, j'ai commencé à faire mes vidéos à Caen, avec ma caméra embarquée. Et il y a un moment, je me suis dit, il y a quand même des gens vachement inspirants que j'aimerais avoir. Donc au début, je commençais juste avec mes potes, tu vois, de me dire, ok, bon, bah, j'invitais mes potes, ça les faisait kiffer, c'était grave intéressant. Et la vraie première personne qui m'a répondu, c'est Panayotis Pasco, où j'avais sorti genre, je crois, 6 ou 7 vidéos. Et je lui ai envoyé en lui disant, tiens, j'aimerais trop, je venais de voir son TEDx, il avait fait un TEDx sur l'échec. Et j'avais adoré sur l'échec, la réussite, etc. Et je lui avais envoyé un message en lui disant, hey, mec, est-ce que ça te dit de venir? J'aimerais trop qu'on discute de tout ça. Et il m'avait répondu, je me rappelle, à 5h du mat, un truc comme ça. Mais genre, je l'avais envoyé à 22h, il m'avait répondu à 5h, en disant, ouais, mec, trop feel good, viens, on fait ça. C'était la première fois que j'avais une personnalité, c'était à l'époque où il était encore à Quotidien, tu vois.
Okay.
Donc c'était l'époque, le petit journal, Quotidien et tout, c'était sa dernière année à Quotidien. Et j'étais en mode, waouh, ok, c'est bon. Là, ma première célébrité, c'est fou, je vais rencontrer un gars que je kiffe, qui a des trucs trop intéressants à raconter, qui est habitué à l'exercice de la vidéo aussi. Donc je savais que c'est aussi beaucoup plus simple, tu vois, ça t'enlève des contraintes. Et après, plus de réponses pendant 6 mois.
C'est pas vrai.
Je le relançais de temps en temps, mais là, rien, je sortais une nouvelle vidéo, etc. Et entre-temps, moi, je bossais, donc j'étais toujours en agence. Et je bossais pour un festival qui s'appelle le Festival Beauregard, où j'étais de l'autre côté de la barrière où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je gérais les relations influenceurs. Donc j'accréditais les influenceurs, je gérais les interviews pour eux, etc. Et je les chouchoutais pendant 4 jours de festival. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marion Séclin, et avec qui on s'est très bien entendu. Et en fait, je lui ai proposé pendant le festival de faire une vidéo ensemble. Elle a dit « Vas-y, trop bien ». C'était sur « Savoir s'entourer ». Et on a discuté de ça à l'époque, vraiment dans le quartier où j'habitais. C'était très drôle, on se baladait, on savait pas trop où on allait, on a fini dans les champs, etc. Et au moment où je sors la vidéo, donc la vidéo sort, et Panayotis m'envoie un message directement après, je pense qu'il l'avait vu, tu vois, en disant vas-y mec, et 3 jours après on tournait ensemble, quoi.
Okay.
Et donc c'est vraiment le tout départ. Parce que tu vois, en effet, le premier Entre Mecs, ça doit être sur la drague, c'est avec Kemar. Après, en gros, on a tourné 4 dans la même journée avec Tanguy Rousseau, Alex Ramirez. Et Mich, qui est un très bon pote de Kemar, et c'était un peu l'époque la biscotte, etc. et c'était des gens que je connaissais un petit peu déjà, parce qu'il s'était passé déjà pas mal de choses entre-temps, et ma chaîne avait grossi, j'étais arrivé à Paris à ce moment-là, donc en fait c'était des gens que j'avais déjà un peu croisés en soirée, voilà, donc quand je leur ai proposé, c'était des gens où je les connaissais un petit peu, quoi. Mais Alex Ramirez, c'est même très drôle, on s'est rencontrés grâce ou à cause, je sais pas, de Jean Pascal de la Star Academy.
D'accord.
En gros, moi, mon running gag, c'est que quand j'étais gamin, j'étais fan de l'agitateur. Moi, je suis vraiment époque Star Academy première saison. Et en gros, il y avait un moment où donc j'arrêtais pas de passer l'agitateur. Donc je le taguais en plus sur Instagram, etc. Et donc c'était un peu devenu le running gag avec ma petite communauté à l'époque. Et en gros, en décembre, peut-être 3-4 jours avant le nouvel an, je poste une story en disant objectif que Jean-Pascal Lacoste me suive sur Instagram avant le nouvel an, tu vois. Et en fait, ça l'a fait marrer, il m'a suivi. Et donc, quelques semaines se passent et Alex Ramirez fait une story où en gros, il fait une blague sur Jean-Pascal en disant que c'était de la merde, etc. Voilà. Et donc, on a des abonnés en commun, tu vois, qui m'ont envoyé sa story en disant « Ouais, il faut que tu défendes Jean-Pascal, etc. » Et donc, je lui ai envoyé un DM, je crois que je l'ai même notifié sur Instagram, un truc comme ça, en mode défenseur ultime de Jean-Pascal, tu vois. Et en fait, on s'est marré sur Insta. Et après, bah, la grosse force de Paris, et c'est pour ça que j'avais démissionné de mon taf, que j'étais venu sur Paris, etc., c'est que une semaine avant le tournage d'Entre Mecs, on se croise dans le métro par hasard. Et on discute. Et là, à ce moment-là, je lui dis, mec, je tourne un nouveau format la semaine prochaine. Est-ce que tu veux venir, quoi? Et il me dit, ok. Et donc voilà. Et après, il s'en est suivi vraiment tellement d'épisodes avec lui parce qu'on est devenus des très bons amis et tout, quoi. Donc le point de départ, c'était ça. Et après, en effet, sur les personnalités un peu plus connues et tout, ça a été plutôt un effet boule de neige qui s'est fait un peu étape par étape. Mais au début, j'ai envoyé tellement de mails qui ont été déjà avec aucune réponse, tu vois.
Aujourd'hui, tu priorises quand même les gens que tu admires et dont tu aimerais vraiment découvrir plus de choses personnellement parlant. Ou est-ce que tu essaies quand même de faire marcher ton cercle d'amis Tu sélectionnes comment, en fait, aujourd'hui, tes invités?
Bah, alors, ça dépend des émissions. Mais la plupart des gens, c'est des gens, selon la thématique, où je me dis ils sont hyper pertinents. Sur une table ronde, c'est un peu, je suis un peu un espèce d'entraîneur de foot, tu vois. C'est-à-dire que je me dis comment j'arrive à choper des gens qui, individuellement, vont être hyper pertinents sur la thématique. Et en même temps, comment je chope des gens qui vont être complémentaires sur la table ronde et qui vont bien s'entendre aussi. Parce que tu peux inviter tellement de restas et juste en le disant trop bien, je fais du fit and fun, tu vois. En mode, ils vont me ramener leur communauté et tout. Ouais. Et après, tu peux faire une vidéo, mais nul à chier, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait plein de paris, tu vois. Quand je fais un tartine de vie avec Camille Combal, Camilla Jordana et Pomme, je sais qu'il y en a qui se connaissent pas dedans, etc. Mais je me dis, en fait, ça peut être complètement fou, tu vois. Genre, je sais que chacun a une vision du monde, a un truc, tu vois, qui fait que ça peut trop bien matcher. Et en vrai, là, le pari était réussi, donc c'était trop bien. Mais aujourd'hui, je suis... Et encore plus aujourd'hui, tu vois, les formats, ils sont installés. Donc, je suis pas du tout dans une course au plus gros guest ou à des choses comme ça. Et on discute plus sur le projet, tu vois. Genre, quand Big Flo est venu dans Entre Mecs, par exemple, c'était une vraie thématique dont on avait discuté. Lui, savait qu'il kiffait l'émission et tout. Et c'était vraiment de se dire... donc là, on parlait de devenir adulte, tu vois. Parce que je savais que c'était une thématique qui allait le toucher. Ouais. Et j'ai pas invité Big Flo pour avoir Big Flo, tu vois. C'était plus en mode...
Ouais, il en parle même dans ses textes, donc c'est sûr que
complètement.
Ça
c'est le premier truc que je lui dis, d'ailleurs. Ouais. Le premier truc que je lui dis, c'est « Ah putain, ce titre-là, je lui ai sorti un titre... » où c'est un titre sur la masculinité, en fait, mais qui dure 7 minutes, ou qui est hyper deep. Et moi, c'est en écoutant ce son-là que je me suis dit « Ah oui, il faut absolument qu'il vienne. »
Du coup, les thèmes, tu les trouves à travers les questionnements que tu te poses toi-même, finalement? Ou est-ce qu'il y a des fois aussi où tu vas regarder dans les commentaires et tu vas dire « Ah, ça, c'est un bon sujet », tu prends un peu tout, finalement, ou,
Les deux, complètement les deux. Aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est qu'au début, tu vois, bah, t'as personne qui t'envoie des commentaires, donc tu pioches avec des trucs. Mais aujourd'hui, évidemment, je regarde tout ce qu'on me propose. Il y a des gens qui m'envoient des idées qui sont trop intelligentes. Et après, je fais matcher. En fait, il n'y a pas de thématique que je fais juste en me disant ça va marcher. Ouais. Pour moi, c'est des thématiques où je me dis est-ce que ça m'intéresse? Et si ça m'intéresse, ça veut dire que ça va forcément intéresser d'autres gens, tu vois.
Si elles font écho aussi au moment où tu es en train de vivre ça.
Complètement. Complètement.
Ok. Et du coup, là, comme tu en parlais pendant la conférence au Frams, tu as eu un gros buzz au niveau de tes statistiques grâce au confinement, etc. Ça a très vite marché. Et d'un côté, ça devait être trop cool parce que tu avais enfin la reconnaissance sur ton travail. Mais est-ce que c'était pas aussi stressant et ça t'a pas mis un poids sur les épaules et tu t'es senti légitime d'avoir tout ce public d'un coup qui est arrivé ou
Bah, la légitimité, je me suis pas trop posé la question parce que pour moi, c'est pas... Le confinement a aidé, mais c'est surtout le fait que d'un coup, je produise une émission par semaine. Et donc, pour moi, c'était la récompense du travail aussi, tu vois. C'était pas comme si je faisais genre comme d'habitude et d'un coup, ça explosait, tu vois. Je me disais, ah, pourquoi moi, etc. Donc pour moi, il y a eu un alignement des planètes, tu vois, de dire, ok, il y avait cette période de confinement où d'un coup, beaucoup plus de gens étaient connectés. Donc, on avait l'attention de beaucoup plus de gens qui avaient plus de temps aussi, tu vois, pour être sur les réseaux. Et en même temps, moi, j'ai aligné ce truc-là en disant, maintenant, on rentre dans un autre process de production et on produit une vraie émission par semaine. Et quand je dis une, c'est vraiment sur ma chaîne. Donc c'était en parallèle, il y avait une à deux émissions par semaine avec France TV Slash aussi. Mm. Donc on voyait presque un peu trop sur les réseaux des fois. Et ouais, non, donc en termes de légitimité, je me suis pas trop posé la question. Et après, je pense que j'ai eu des moments où en effet, je me rendais compte que bah, tu passes de 200 000 vues à 400 000, à 500 000 vues par vidéo, etc.
Donc tu parles pas au même public.
Exactement. Donc tu sais que déjà, tu vas ratisser plus large, que tu vas. Il y a moins cet aspect familial aussi, tu sais, où tu avais un truc avant où je reconnaissais un peu les mêmes pseudos et tout. Tu dis d'un coup, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément l'historique de qui je suis, qui me découvrent sur une vidéo précise, etc. Avec tous les a priori que tu peux avoir sur une vidéo. Moi, j'ai. Bon, je vais pas me le cacher, hein, je ne suis pas un grand ami de jeuxvideo.com, je ne suis pas un grand ami de l'extrême droite, etc. Donc c'était aussi ce truc-là, tu vois, c'était de se dire, d'un coup, tu fais plus de vues, donc cette espèce de petit microcosme que j'avais avec des gens qui me ressemblaient, potentiellement, quand j'avais des vidéos qui arrivaient en tendance, je savais que, bah, évidemment, les gens, pas sur qui je tapais, mais en tout cas, qui n'étaient pas forcément d'accord avec mes idées, ou en tout cas, ce que j'essayais de défendre dans une déconstruction masculine, tu vois. Bah forcément c'est des gens qui allaient porter leur voix, qui allaient voir ce que je faisais, etc. Donc ça a pu me stresser un peu, mais en vrai c'est tellement minime, tous les trucs que j'ai pu recevoir, etc. C'est tellement minime par rapport à la grosse majorité, tu vois, qui s'y retrouvait, qui disait waouh, ouais, c'est frais, c'est, on n'a jamais vu ça sur YouTube, trop bien et tout. Donc j'ai kiffé. Et tu vois, encore aujourd'hui je tente des trucs, tu vois, genre à un moment où là je pourrais faire que de la table ronde. Bah tu vois, j'adore être là où on m'attend pas, tu vois, genre quand je me dis vas-y je fais un nouveau format, ça va être avec des chatons et Thibaut InShape. Je pense que Thibaut InShape c'était la dernière personne qu'on attendait sur ma chaîne, tu vois. Je me dis mais trop bien, justement on va aller faire ça, quoi.
Mais justement au début de ta chaîne t'as fait toute une série de vidéos où tu te mettais totalement à l'aventure, où t'allais affronter tes peurs, et du coup j'ai l'impression que ça reste un peu sur ta chaîne où t'oses faire des nouveaux formats. Et du coup est-ce que c'est ce que tu ressens quand tu débutes une nouvelle aventure? Est-ce que tu vraiment c'est la palpitation, t'as plein de craintes, mais t'as ce goût d'aventure, quoi. Tu te contentes pas d'avoir ton format, quoi, finalement.
Non, c'est clair. Et en fait, il y a surtout un truc, c'est que je m'ennuie très très vite. Donc je crois que c'est même vital, en fait, tu vois. Je pourrais pas sortir les mêmes vidéos tout le temps, et parce que je pense que le public pourrait se lasser à un moment, mais je crois que je me lasserais beaucoup plus vite que le public. Donc j'essaie d'avoir toujours un temps d'avance, et j'ai plein de gens autour de moi, tu vois, bah Panayotis par exemple, je trouve que tu vois, quand on en avait discuté quand je l'avais rencontré au tout début, c'est drôle parce qu'après j'ai réalisé ses vidéos et tout, donc tu vois il est venu dans Entre Mecs beaucoup plus tard, des années après et tout, mais je trouve que c'est quelqu'un, par exemple, quand il a quitté Quotidien, il l'a quitté quand il était au top, tu vois, pour aller sur de la scène, qui est vraiment le truc qui est la remise en question, et c'est la prise de risque la plus totale, et j'avais adoré ce truc là. Et du coup, je me suis vite rendu compte que c'était aussi mon ADN, tu vois, et que c'est hyper important d'essayer d'avoir un temps d'avance tout le temps, et puis de tester des choses, parce que tu te rends compte que bah, t'as pas mille trucs à perdre non plus, quoi.
Je vais te poser une question, parce que du coup, comme tu dis, ton format, on le retrouvait pas de base sur YouTube, et je me demandais comment t'avais réussi à dépasser cette peut-être crainte de se dire est-ce que je suis vraiment légitime d'en parler, parce que finalement, t'as abordé tellement de thèmes que j'imagine qu'il y a des fois où tu t'es dit est-ce que c'est vraiment à moi de le faire, tu vois. Après, heureusement, tu étais toujours accompagnée, t'as jamais fait ça seule face à une caméra, enfin, on le croit rarement. Du coup, est-ce que ouais, t'as eu cette crainte de te dire est-ce que c'est vraiment ma place
Déjà, Entre Mecs, c'est une formule que j'ai mis un an, tu vois, à réfléchir. Parce que, évidemment, la prise de parole masculine, en fait, quand t'es le premier à ouvrir les portes, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. mais que par contre, c'est trop important ces locomotives là parce que derrière ça va ouvrir la porte à plein de gens, tu vois.
Carrément.
Donc je m'étais dit ok, ça veut dire que il faut être quand même assez malin, et tu vois, c'est aussi pour ça que par exemple dans Entre Mecs on parle jamais à la place de gens qui sont pas présents, donc c'est pour ça qu'on théorise aussi très peu. C'est pour ça que c'est vraiment en fait du partage d'anecdotes,
c'est du ressenti.
Exactement. Donc là dessus tu vois, je me suis jamais senti illégitime par rapport à ça, parce qu'à aucun moment on sortait des vérités générales ou des trucs, tu vois. C'est en fait tu peux pas sortir une anecdote et dire ton anecdote est fausse, tu vois. On n'est pas chez McFly Carito, tu vois. C'est vraiment non, là je te dis un truc, c'est factuel, donc voilà. Et donc voilà, l'idée c'était justement ça, et il y en a plein qui avaient essayé, hein, de parler un peu de masculinité, etc. Étaient tellement toujours sur le fil. Donc on fait hyper attention à ça. C'est pour ça que là, à la rentrée, là, je sors Entre Potes, qui est la version mixte d'Entre Mecs. On va reprendre tous les sujets qu'on a fait en deux ans sur Entre Mecs, mais en version mixte, donc avec deux mecs, deux meufs, pour justement pour aborder aussi différemment, c'est d'autres choses, c'est une autre... C'est autre chose que juste le parti pris de la non-mixité, tu vois. Ou ce truc-là, je vais le continuer, mais on l'a compris, etc. Et là, l'idée, voilà, c'est de se dire comment on fait évoluer le format et comment on arrive à avoir des témoignages un petit peu différents. Mais pareil, tu vois, quand on parle de transidentité, à aucun moment je prends la parole sur la transidentité. Je préfère me dire, ok, j'invite trois personnes trans et je vais leur laisser la parole pendant deux heures, tu vois. Pareil sur les drag queens, pareil sur, voilà, sur tout ça. Et donc, non, en termes d'illégitimité, j'en ai pas forcément. Si tu parlais de doute, il y a du doute constamment, tu vois. Moi, je suis grave pour le doute, mais pas le doute paralysant, tu vois. Ouais. C'est comment tu trouves l'équilibre. Du coup, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est d'être dans l'action, en fait. C'est je réfléchis vraiment pas mille ans. Ouais. Entre mecs, quand j'ai trouvé la formule vraiment, j'ai appelé Toto et Omar, du coup, à l'époque, et je leur ai dit, écoutez, on tourne dans une semaine. Et j'avais pas encore le studio, j'avais rien, j'avais pas l'équipe technique et tout, mais je me suis dit, là maintenant que j'ai trouvé la formule, on arrête de réfléchir maintenant, tu vois. On arrête de douter, on arrête de réfléchir, on le fait et on voit ce que ça donne.
Mais pour ceux qui écoutent le podcast, c'est vraiment pareil, j'ai toujours admiré les interviews, j'ai écouté beaucoup de podcasts cet été, et ce podcast s'est littéralement créé il y a une semaine, quoi. Enfin, vraiment, ça s'est fait sur, allez, c'est l'occasion, faut pas louper ça. Donc ouais, ce truc d'activité qu'il faut se lancer, je comprends totalement. Et je me demandais du coup, pour revenir au fait que maintenant t'avais vraiment beaucoup de... enfin une grosse communauté, je me demandais si c'était pas... parce qu'au début je sais que t'étais très, très réactif quand on te laissait un commentaire, des messages, etc. Et est-ce que ça te frustre un peu de plus pouvoir avoir ce lien-là avec tes abonnés? Parce que du coup, finalement, tu n'as pas tant de moments où tu peux les rencontrer dans la vraie vie, si ce n'est dans la rue ou même dans un festival comme le Frams. Mais est-ce que cette légère coupure de lien avec eux, ça t'a fait quelque chose
Bah ouais, au début, c'est un peu étrange. Quand tu sors une vidéo, tu recevais genre 10-15 messages privés, tu vois, donc c'est hyper facile de répondre. Là, c'est plusieurs milliers à chaque sortie de vidéo, tu vois. Donc, humainement, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Au début, ça me frustrait. Je me disais, OK, c'est bon, les gens, ils vont me follow. Ils vont dire, en fait, Ben Nevers, c'est un gros connard. Je lui envoie un message, il ne même pas me répondre et tout. En fait, les gens, ils sont vachement à l'écoute là-dessus. Et les gens, ils en ont vachement conscience aussi, tu vois. Parce que je crois que... En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que ma valeur ajoutée, ce n'est pas forcément de répondre en DM à tout le monde, c'est de faire du contenu qui font kiffer les gens, en fait. Ouais. Et la plupart des DM qu'on m'envoie, c'est « Merci pour cette vidéo, ça a été un vrai déclic, etc. » Et du coup, moi, pour rendre l'appareil, c'est de continuer à faire ce que je kiffe, tu vois. Et comme mon temps n'est pas extensible, c'est continuer à faire ces trucs-là, tu vois, qui ont une vraie valeur ajoutée pour moi. Mais ouais, au début, c'est un peu stressant, tu vois. Tu te dis « Mais comment je vais gérer ça? Comment c'est possible de répondre à tout le monde? Est-ce que les gens vont me détester si je réponds pas, etc. » Bon, ça, en vrai, j'ai passé ce moment-là. Ouais. Non. Et puis, les gens m'en veulent pas. Tu reçois toujours un ou deux DM de « Ah bah super de pas répondre !» Genre vraiment des gens qui pensent que tu leur dois tout, tu vois. Mais moi, je me concentre sur ma valeur ajoutée qui est faire des vidéos. Et tu vois, et même des fois, je fais de plus en plus ce que je faisais pas trop à l'époque. Vu que je peux plus répondre au cas par cas, je fais de plus en plus même de FAQ, tu vois, sur Instagram, même sur ma chaîne, je commence à en faire plus aussi, en faisant des tirs groupés, tu vois, mais en disant bon, il y a quand même beaucoup de questions qui se ressemblent, je vais répondre à tout le monde, comme ça je garde quand même un lien directement avec vous, mais j'ai pas besoin de répondre individuellement, ce qui est plus possible aujourd'hui.
Et tu te rends compte de l'impact que t'as sur ton public, quoi, parce que vraiment c'est impressionnant le nombre de retours où presque t'as changé. Peut-être une vie, c'est un gros mot, mais en vrai, le parcours de beaucoup de gens a été chamboulé par ton intervention. Et je pense encore plus avec la sortie de ton livre, où j'imagine que tu vas encore plus en profondeur de ton ressenti à toi. Est-ce que tu te rends vraiment compte de l'impact que tu as chez les gens ou,
Franchement, les premières fois que j'ai sorti des tables rondes, type entre mecs et tout, c'était la première fois que je recevais autant de DM de gens, tu vois, où je me disais, ouais, ok, là, c'est un truc qui me dépasse, en fait. C'est un truc qui va bien au-delà de moi, en fait, tu vois. C'est vraiment un truc juste de ok, on touche sur des thématiques qui universelles et on est en train d'ouvrir des portes et c'est trop bien. Après l'autre étape, c'est le moment où j'ai commencé à sortir dans la rue, tu vois, et on a commencé à enlever les masques, etc. Et après l'autre étape encore, c'est, tu vois, c'est ce que vous avez vécu hier, tu vois, de venir même en dédicace, c'était ma première dédicace, première fois là, tu vois, de devant dans la rue, etc. Les gens sont un peu là exprès, donc on prend même plus le temps que juste quand on se croise par hasard dans la rue. Donc ouais, non, en vrai, ça me touche à chaque fois. En fait, c'est bizarre parce que ça me touche et en même temps, pour moi, c'est pas forcément grâce à moi, tu vois, c'est grâce à... En fait, moi, j'ai lancé des pistes et après, c'est les gens, chacun dans leur parcours perso, qui font leur propre taf, tu vois. Donc, chacun est un peu responsable de sa vie et si ça avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, ça aurait été un autre déclic.
Ouais, t'as facilité l'ouverture d'une porte, quand même, tu vois.
Ouais, mais je pense, tu vois, pour moi, c'est, même si je suis hyper habité par ce que je fais, je préfère aussi me dire que je différencie vachement la personne que je suis individuellement et Ben Nevers, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, je pense que c'est un truc pour me protéger aussi, tu vois. Et je pense pour pas commencer à me prendre pour un espèce de gourou sauveur du monde, ouais. Tu vois. Où je pense que tu as vite fait de péter un cap, tu vois. C'est-à-dire qu'après, je vends des formations. Et puis après, je crée une grosse secte. Et je dis à tout le monde ce qu'il faut faire ou pas faire dans sa vie, tu vois. Alors que ça se trouve, tu vois, il y a des opinions que j'ai aujourd'hui. Et peut-être qu'elles vont complètement évoluer par la suite, tu vois. Donc ouais, en vrai, je continue. Et je pense que c'est aussi ce qui marche, ce que les gens aiment bien, c'est l'authenticité et l'humilité de nos prises de parole. Et ça, tu peux pas l'avoir si tu commences une vidéo en lançant le rec et en disant « Allez, on va tourner pendant une heure pour changer le monde maintenant », tu vois. Donc non, je me vois pas du tout comme un sauveur, etc. Mais par contre, évidemment que ça me touche parce que je fais le contenu que j'aurais adoré avoir quand j'étais même plus jeune, tu vois. Et je suis hyper heureux quand j'ai des retours, tu vois, là hier un gars qui me dit avant j'étais homophobe et je détestais tes vidéos et à force de regarder au bout d'un an et demi je me suis rendu compte que j'étais bisexuel et que j'ai complètement accepté, etc., tu vois. Je dis ouais, trop bien. Et je sais qu'en même temps c'est pas que mes vidéos, tu vois, c'est un parcours, c'est plein de déclics, etc., quoi.
C'est sûr. Mais du coup, même toi, j'imagine que humainement parlant, ça t'a même fait beaucoup de déclics de faire toutes ces émissions. Et même tes invités, je suis certaine qu'il y en a qui en sont ressortis un poil différent, quoi, des vidéos.
Ouais, complètement. Fois. Moi, je suis hyper content. En fait, mon taf à chaque fois, c'est de créer une ambiance qui amène à la confession, tu vois. Mais jamais la confession forcée, tu vois. Il y a plein de manières de gérer une interview. D'ailleurs, je dis de moins en moins interview. Pour moi, c'est vraiment des discussions, en fait, plus. Et tu peux la faire à la Hardisson, c'est-à-dire mettre hyper mal à l'aise et montrer que tu t'en sais plus sur les gens et tu sais, essayer de les mettre en galère. Et du coup, c'est le moment où en fait la personne, tu fais une séquence un peu phénoménale, tu vois, exactement. Et la personne est en mode waouh, ok, je sais pas, et tu sais pas comment répondre, etc. Moi, je suis plus dans la douceur, tu vois, de dire, mais ça demande un peu plus de temps, mais en même temps, j'adore sur internet le fait que. Vas-y, en vrai, tu vois, si je veux faire une vidéo de 3 heures, je fais une vidéo de 3 heures, tu vois. Qui va me donner une grille, qui va me dire non, faut pas faire ça, etc. Bah, tu vois, par exemple, sur Insomnie, je suis trop content parce que là, on a repris la nouvelle saison. Je sais pas si ce sera sorti quand tu sortiras le podcast, mais c'est. Visuellement, on a fait un contre-pied total. Okay. C'est-à-dire qu'on va vraiment là où on m'attend pas du tout, tu vois. Et en même temps, ça reste une expérience et je suis trop content parce qu'il n'y a pas un seul invité là en 25, maintenant en 30 émissions en tournée. Il n'y a pas un seul invité qui est pas ressorti en disant ouais, j'ai vécu un truc unique en fait. Et il y en a plein qui font la blague de putain, mais en fait, je viens de faire une heure chez le psy gratos, tu vois. Et c'est trop bien en fait parce que pour moi, les gens ressentent si tu passes un bon moment ou pas. Donc moi mon objectif c'est que les gens ils passent un bon moment, qu'ils se sentent à l'aise et de créer à chaque fois des univers un peu différents pour que les gens se confient.
Et on voit que même visuellement parlant t'aimes quand c'est bien réalisé, quoi.
Ouais.
Les formats sont toujours propres. Super. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que tu as vécu avec YouTube. Maintenant, ton livre est dispo. Il y a vraiment plein de formats à découvrir sur France TV / et sur la chaîne YouTube que tu détiens, ouais. Ben Nevers. Donc, vous avez des choses à voir. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Et merci beaucoup du coup, d'avoir accepté cette discussion.
Bah, merci à toi. C'est un plaisir.
Et au plaisir.
C'était Margot en compagnie de Ben Nevers pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.